Habituellement, quand on visualise une grande figure biblique ou un héros de l'Antiquité, on s'imagine un peu une immense statue de marbre blanc, tu vois.
Ouais, la posture hyper stoïque, la perfection totale face au chaos.
C'est ça, un truc bien lisse et inébranlable. Et bah, c'est confortable de voir les choses comme ça. On regarde ce monument et on se dit que c'est un modèle indépassable.
Sauf que si on s'approche un peu, on voit vite les fissures, en fait.
Exactement. Et aujourd'hui, grâce aux recherches du docteur John Woolton, et plus particulièrement sa session 24 sur le livre de Job, eh bien, on va sortir la loupe. On va regarder ce monument de très près.
Et je suis ravie qu'on fasse cette plongée parce que l'image idéalisée du Saint Job, ce gars patient et parfait, elle s'effondre assez vite.
C'est clair. Ça laisse place à quelque chose de beaucoup plus sombre, plus complexe et vachement paradoxal.
Du coup, l'objectif de notre exploration approfondie aujourd'hui, c'est pas de relire gentiment un petit conte moral, genre la fable que notre culture pense connaître par cœur.
Ouais, on n'est pas là pour lire une histoire pour s'endormir.
Pas du tout. C'est une vraie déconstruction, une déconstruction rigoureuse. Ceux qui nous écoutent et qui ont grandi avec l'idée d'un Job héroïque, la victime parfaite d'un test divin, bah préparez-vous à une violente dissonance cognitive.
Ah, ça risque de piquer un peu pour certains. Hein.
C'est sûr. On va plonger dans le contexte du Proche-Orient ancien pour vraiment comprendre ce que ce texte disait à ses tout premiers lecteurs. Et spoiler, la culture populaire a presque tout faux sur le message de cette œuvre.
Bon, décortiquons tout ça. Parce que si Job n'est pas le modèle à suivre face à la souffrance, quelle est sa véritable fonction dans ce récit, en fait?
C'est la bonne question.
Ben oui, pourquoi on lui consacre 42 chapitres s'il détient pas la clé du problème?
En fait, son rôle littéraire, c'est d'incarner le problème de la souffrance. En aucun cas d'en fournir la solution. Le livre se sert de lui pour poser un diagnostic, tout simplement.
D'accord, il est là pour crier que ça va pas, quoi.
Voilà. Job souffre d'une manière totalement disproportionnée, imméritée. Il crie, il argumente. Sauf que, selon l'analyse du docteur Walton, les réponses que Job apporte à sa propre tragédie illustrent précisément la mauvaise façon de réagir face au chaos.
Attends, vraiment ? On parle quand même de l'archétype universel du gars vertueux qui souffre ?
Ouais. Mais sa sagesse est profondément inadéquate.
Mais comment le texte originel peut secrètement nous dire que ses réactions sont, enfin, toxiques?
Bah, il suffit d'écouter ce que Job exige tout au long du récit. Confronté à la perte de ses enfants, de sa richesse et de sa santé, il fait absolument pas preuve d'une acceptation sereine.
Il est plutôt du genre à vouloir se battre.
Exactement. Il finit par développer une vision où le divin est perçu comme mesquin, capricieux...
Voire tyrannique, non?
C'est carrément ça. Et la seule échappatoire qu'il conçoit, genre son seul remède, c'est de traîner le créateur de l'univers devant un tribunal humain.
Ah oui, pour exiger des explications légales avec des preuves mathématiques et tout.
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'auteur antique loue Job pour avoir eu raison sur certains points précis à la toute fin, mais il le condamne lourdement sur son attitude vindicative en cours de route.
Tu sais, pour utiliser une analogie, Job, ce serait un peu comme ce chercheur qui découvre une nouvelle maladie dévastatrice.
J'aime bien cette idée, vas-y.
Ben, il a l'immense mérite de l'isoler au microscope, tu vois. Il expose le problème à la communauté scientifique avec une clarté brutale. Mais quand il s'agit de soigner le patient, il prescrit un traitement radioactif qui détruit absolument tout.
C'est une excellente métaphore.
Oui, on doit le remercier d'avoir identifié le mal, mais ça serait complètement suicidaire d'avaler la pilule qu'il nous tend.
C'est exactement ça. Parce que la prescription de Job, elle consiste à dire un truc du genre « Si je souffre alors que je suis innocent, c'est que l'univers est géré par un monstre injuste. »
Ce qui est une déduction super toxique, en fait.
Et c'est précisément cette déduction que le livre tente de démonter. Le drame, c'est que des générations de lecteurs ont pris les gémissements et les accusations de Job pour des vérités théologiques absolues.
Alors que le texte les présente comme, quoi, les délires d'un homme brisé.
Oui, un homme brisé qui perd pied, tout simplement.
Mais il y a un problème de taille avec cette théorie, quand même. Le livre de Job commence littéralement par une description super élogieuse. Dès les premières lignes, on nous dit qu'il est intègre. Droit, qu'il fuit le mal.
C'est vrai, l'introduction est très claire là-dessus.
Alors, si sa sagesse est si bancale, pourquoi le narrateur insiste autant sur sa perfection initiale?
Bah, c'est là qu'il faut faire une distinction vitale entre la justice telle qu'elle est décrite ici et la piété. la justice de Job, c'est son statut moral, en fait.
Son comportement au quotidien, tu veux dire?
Oui. Le chapitre 31 détaille d'ailleurs son serment d'innocence. Il n'a pas volé, il n'a pas commis d'adultère, il aide les pauvres. C'est ça qui le sépare du reste de l'humanité.
D'accord, mais c'est pas une perfection absolue non plus.
Non, attention, les textes antiques, y compris les psaumes, ils rappellent bien que personne n'est parfaitement juste. Ce n'est pas une pureté absolue. Mais ce qui pose réellement problème, et ce qui va déclencher tout le drame cosmique, c'est la nature de sa piété.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour nous, aujourd'hui, la piété, c'est un sentiment spirituel intérieur. Une sorte de dévotion du cœur, quoi.
Sauf que dans le Proche-Orient ancien, c'était tout autre chose.
C'était quoi, alors?
C'était une mécanique utilitaire. Ce que le docteur Walton appelle la brande symbiose. Dans ce monde antique, les humains imaginaient les dieux comme des entités très puissantes mais nécessiteuses, avec des égos extrêmement fragiles.
Genre des dieux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux?
C'est ça. Les dieux créaient l'ordre, amenaient la pluie, protégeaient les récoltes. Enfin bref. Mais en retour, ils avaient besoin que les humains les nourrissent, les chérissent et surtout apaisent leur colère par des rituels constants.
Si on modernise un peu le concept, cette grande symbiose, ça ressemble à s'y méprendre aux méthodes de la mafia, non?
C'est clair, la fameuse protection.
Ouais, le parrain local garantit que ton magasin sera pas brûlé à condition que tu payes ton assurance toutes les semaines. Et on verse pas cet argent par amour pour le chef du réseau.
Ah bah non, pas du tout.
On le verse par pure terreur de ce qui arriverait si on rate un paiement. C'est une bête transaction de protection.
Et cette analogie mafieuse illustre parfaitement la froideur du contrat. Regardons un peu comment Job pratique cette piété transactionnelle. Le tout premier chapitre, versets 4 et 5, décrit une scène hyper révélatrice.
Où il fait des sacrifices pour ses enfants, c'est ça, hein?
Ouais. Job ne se contente pas des sacrifices habituels, il se lève super tôt le matin et il offre des sacrifices supplémentaires pour chacun de ses enfants. Il se dit « Peut-être ont-ils péché et offensé Dieu dans leur cœur. »
Mais c'est de la paranoïa spirituelle, genre il paye une double assurance pour des crimes qui n'ont peut-être même pas été commis. Juste au cas où le parrain cosmite serait de mauvaise humeur.
C'est une surperformance rituelle névrotique, oui. Job vit dans la terreur d'une divinité qui pourrait tout lui arracher à la moindre faute technique.
Au moindre petit faux pas de l'un de ses proches, quoi.
Absolument. Et d'ailleurs, il y a une indice textuelle majeure qui vient confirmer que ces rituels ne sont pas la solution au problème.
Lequel?
Eh bien, durant toute l'épreuve de Job, jamais ses amis ne lui suggèrent d'offrir plus de sacrifices pour apaiser la douleur.
Ah ouais, c'est vrai ça. Ils lui disent jamais de retourner à l'autel.
Non, parce que la piété rituelle n'a aucun pouvoir ici. Elle n'est que le symptôme de l'anxiété profonde de Job. Une fenêtre ouverte sur un esprit qui veut absolument contrôler l'incontrôlable.
Et c'est justement cette obsession du contrôle qui va attirer l'attention dans les cieux. On arrive à la fameuse scène de la cour céleste. Comment cette névrose de la perfection a pu armer la main de l'adversaire?
C'est une super question, parce qu'on présente toujours ce pari comme une cruauté gratuite. Mais oublions l'image d'un démon cornu avec une fourche.
Oui, le diable en collant rouge l'onobi.
Voilà. Le mot hébreu « Satan » ici, ça fonctionne comme un titre. L'adversaire, le challenger ou même le procureur. Son rôle dans cette cour céleste, c'est d'auditer les humains.
C'est un inspecteur des impôts cosmiques.
Exactement. Il observe Job depuis longtemps. Il voit cet homme qui multiplie les sacrifices, qui paie ses primes d'assurance religieuse avec une ponctualité complètement maladive.
Et il se pose des questions.
L'adversaire fait alors une déduction glaçante, mais d'une logique implacable.
Quand il dit
« Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ?»
Il met le doigt en plein sur la faille du contrat mafieux, en fait.
Ouais, il expose le problème de la grande symbiose. Si Job agit uniquement dans ce cadre transactionnel, s'il croit que chaque sacrifice lui achète un jour de protection de plus pour ses troupeaux et sa famille...
Comment on peut savoir s'il est vraiment quelqu'un de bien?
C'est ça. Comment le tribunal céleste peut-il savoir si Job possède une réelle intégrité morale ou s'il est simplement terrifié par une divinité qu'il perçoit comme un tyran irrationnel?
Autrement dit, l'adversaire ne demande pas à torturer Job par pur sadisme. Il soulève une vraie objection juridique qui est valable.
Complètement valable, oui.
Est-ce qu'on peut reprocher à un auditeur de vouloir vérifier si un comportement parfait est motivé par la vertu ou par la peur? C'est quand même troublant, tu trouves pas? Est-ce que l'excès de zèle de Job n'a pas, d'une certaine manière, prouvé au ciel qu'il fallait tester ses motivations réelles?
Si l'on relie cela au contexte plus large, l'histoire bascule d'un simple récit de torture arbitraire vers une vaste investigation philosophique sur la nature humaine.
C'est vraiment le test ultime du désintéressement.
Est-il possible pour l'être humain de faire le bien, de maintenir une droiture morale, sans aucune attente de récompense matérielle, et sans être motivé par la terreur d'un châtiment divin?
Si on retire la santé, la famille, l'argent,
reste-t-il une morale pure?
Donc, l'univers entier s'effondre sur lui pour obtenir cette réponse. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe brûlant de ce personnage. Les sources montrent que, face à ce test, Job réussit brillamment d'un côté, mais s'écrase lamentablement de l'autre.
C'est tout le paradoxe de Job.
Commençons par sa réussite, son intégrité, parce qu'elle est bien réelle quand même.
Oui, son intégrité brille vraiment au chapitre 27. Il prouve, contre toute attente, qu'il sert le divin pour rien. Souvenons-nous de son environnement direct.
Sa femme, par exemple.
Ouais, sa femme le voit gratter ses ulcères sur un tas de cendres et elle lui lance le fameux « maudit Dieu » et meurt. En gros, elle lui dit d'abandonner le contrat puisqu'il ne fonctionne plus.
Et ses amis, de leur côté, ils utilisent une logique tout aussi toxique, en fait. Ils pensent tous selon les règles de la grande symbiose. Pour eux, l'équation est super simple. Job souffre, donc Job a arrêté de payer la mafia céleste.
C'est exactement leur raisonnement.
La seule solution qu'ils lui proposent, c'est de s'humilier et d'avouer des péchés imaginaires pour, tu vois, réactiver la protection divine.
Et c'est toute la pression que Job subit. S'il avait suivi le conseil de sa femme, ou s'il avait inventé de faux péchés pour faire plaisir à ses amis et apaiser le ciel, il aurait donné raison à l'adversaire.
Il aurait prouvé qu'il cherchait juste le bénéfice de la transaction.
Voilà. Mais il s'y refuse catégoriquement. Il s'accroche à la vérité de son innocence. Il refuse de mentir pour obtenir un soulagement, ce qui prouve que son comportement juste avait une valeur indépendante des récompenses. C'est ça sa grande victoire.
Le problème, c'est que cette même certitude de son innocence va muter en un poison mortel. C'est là que l'analyse du docteur Walton frappe fort. Il est où cet échec lamentable dont tu parlais tout à l'heure?
Il se situe dans ce qu'on peut appeler l'auto-justice, ou l'arrogance intellectuelle de Job. À mesure que les discours s'enchaînent, et particulièrement quand un nouveau personnage, Eliou, prend la parole pour l'examiner, un défaut majeur apparaît.
Eliou met le doigt sur quoi exactement?
Il met en lumière que Job est devenu complètement pharisaïque. Il se contente plus de dire « je suis innocent », il est devenu tellement obsédé par la préservation de son propre statut de victime immaculée, tellement amoureux de sa propre droiture morale, qu'il franchit une ligne extrêmement dangereuse.
Laquelle?
Exiger un avocat médiateur pour se défendre.
C'est bien pire que ça. Pour maintenir la fiction de sa perfection personnelle face à un désastre qu'il ne comprend pas, Job en vient à sacrifier la justice de Dieu.
Ah oui, c'est une sacrée bascule.
C'est d'une bascule mentale terrifiante. Job déclare en substance « Puisque je suis parfait et que je souffre, ça prouve irréfutablement que l'univers est géré par un être corrompu et je suis le seul à m'en rendre compte. » Mais c'est un orgueil aux proportions cosmiques, ça. Il s'érige en juge suprême de l'univers, en fait. Pour lui, si l'équation mathématique du bon comportement égale belle vie fonctionne plus, c'est que la matrice est cassée. Pas que sa compréhension de l'univers est peut-être trop limitée.
C'est le cœur du diagnostic toxique de Job. Et c'est Dieu lui-même qui pointe cette arrogance monumentale lors de son intervention finale depuis la tempête, au chapitre 40, verset 8.
Il lui dit quoi, déjà?
La question divine tombe comme un couperet. « Veux-tu vraiment annuler mon jugement? Me condamner pour te justifier ?»«
Me condamner pour te justifier ?» C'est glaçant. Genre, il était prêt à jeter le Créateur sous un bus pour que son propre bulletin de notes spirituelles reste propre, quoi.
Cela soulève une question importante sur la psychologie de la souffrance, tu sais. Peut-on posséder une véritable morale de fond, une intégrité qui résiste à tout, tout en étant à ce point aveuglé par soi-même qu'on réduit les mystères du cosmos à la taille de notre propre ego blessé?
C'est fou quand on y pense.
Ouais, l'histoire de Job démontre que ces deux forces extrêmes, l'intégrité pure et l'arrogance aveugle, elles peuvent tout à fait cohabiter simultanément dans le même esprit.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre compréhension globale de l'œuvre? Quand on rassemble toutes ces pièces, le contrat mafieux, la paranoïa religieuse, le tribunal céleste et l'orgueil de la victime, la vision traditionnelle du pauvre Job stoïque, elle s'évapore complètement.
Il ne reste plus rien de la statue de marbre.
On n'a plus affaire à un surhomme. On a affaire à un être humain brillant, certes, mais terrorisé. Intègre, mais profondément narcissique dans sa douleur. Il s'est lourdement trompé sur la manière dont l'univers respire.
C'est joliment dit.
Quand la machine a semblé dérailler, Au lieu d'accepter qu'il comprenait pas les rouages, il a carrément voulu assigner la machine en justice.
Et c'est pour cela que la conclusion de Walton est si fondamentale. Le livre de Job n'a en fait jamais été à propos de Job.
Ça, c'est le grand retournement.
Oui. Le texte utilise Job comme un instrument, un cas d'étude clinique de l'effondrement psychologique. Il démontre que même l'individu le plus dévoué et le plus droit de son époque peut vriller et réagir de manière désastreuse quand les fondations de son monde éclatent.
Donc, si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, ce texte ne nous est pas donné pour trouver du réconfort. C'est un miroir déformant, en fait. C'est un manuel de survie intellectuelle qui nous montre les pièges à éviter.
L'objectif est clairement de guider le lecteur antique, et moderne d'ailleurs, vers de meilleures réactions face à la tragédie. Il nous enseigne une vraie leçon d'humilité épistémologique.
Une humilité sur ce qu'on peut vraiment comprendre, ou pas ?
Exactement. Penser que notre petite rectitude morale nous offre un champ de force contre le chaos, c'est un mirage. Exiger de l'univers qu'il fournisse un rapport comptable détaillé pour chaque douleur que nous subissons, c'est de l'arrogance pure.
C'est une remise en question totale.
Le livre détruit l'idée de la grande symbiose et de la piété transactionnelle pour nous ouvrir à une sagesse qui accepte l'incompréhensible.
La fameuse statue de marbre est donc totalement en miettes sur le sol de notre studio là. Et pourtant, en regardant ces débris, l'histoire perd absolument rien de sa puissance. C'est même l'inverse, je trouve.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
C'est l'imperfection criante de Job, son besoin compulsif de tout maîtriser, qui rend cette exploration tellement pertinente pour nous. Il n'est plus ce modèle lointain et écrasant. Il est devenu un avertissement vivant.
Et l'avertissement est clair. Comprenez pourquoi Job a perdu la raison dans sa souffrance, étudiez ses erreurs de jugement et surtout, cherchez une sagesse qui ne repose pas sur le contrôle ou l'arrogance.
Ce qui me laisse avec une réflexion super vertigineuse pour clore notre analyse. Essayons deux secondes de transposer ce drame à notre époque.
Vali, je t'écoute.
Si cet homme de l'Antiquité, pourtant doté d'une discipline éthique stupéfiante, et validé par les textes anciens eux-mêmes, n'a pas pu s'empêcher de s'improviser procureur de l'univers face à l'horreur, comment l'être humain moderne pourrait-il faire mieux ?
Ah, c'est une excellente question.
Ben oui, on vit dans une ère qui est gavée de technologies, d'algorithmes, où on exige une explication immédiate et rationnelle pour tout ce qui dysfonctionne. Notre soif de contrôle, elle est infiniment supérieure à celle de Job.
Oh que oui, on veut tout maîtriser.
Alors, lorsque nous sommes percutés par des tragédies aveugles qui pulvérisent notre illusion de sécurité, comment pouvons-nous espérer échapper à ce même piège de l'arrogance intellectuelle ? Si la fondation de Job a craqué sous le poids du fameux « pourquoi », sommes-nous vraiment équipés pour ne pas exiger à notre tour que l'univers nous rende des comptes ? C'est un vertige qui dépasse de loin les frontières de l'Antiquité, et c'est une question que chaque membre de notre audience devra affronter seul. Un immense merci d'avoir plongé dans ces eaux profondes avec nous pour cette exploration approfondie. Gardez cette interrogation en tête et on se retrouve très bientôt pour faire voler en éclats d'autres certitudes.